autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous inspirer du vivant, de tout le vivant, animal, végétal et même bactérien, et de ses formidables capacités d'adaptation et d'invention. Pourquoi et comment tous ces autres vivants nous indiquent d'autres voies, d'autres manières, plus frugales, plus économes et souvent très réjouissantes, de vivre et d'habiter la Terre? Comment mieux construire en suivant l'architecture des termitières ou des pommes de pin? Comment mieux nous déplacer en nous inspirant du sonar des chauves-souris, des ailes des rapaces ou du bec du martin-pêcheur? Comment mieux nous soigner grâce aux chimpanzés, aux requins ou aux venins du terrible mamba noir? Et s'il était même possible de rajeunir comme les méduses ou le rat taupe nu? Autant de questions sur lesquelles planche notre invitée, la chercheuse Emmanuelle Puydébat, spécialiste de l'évolution des comportements et des intelligences animales. Elle nous explique dans son dernier essai « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent », ouvrage où nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, comment ses recherches sur les écrevisses, les singes, les grenouilles ou les éléphants ont tout pour nous inspirer et pourquoi il y a urgence pour nous, comme pour tout le vivant sur Terre. Autour de cette question de la bio-inspiration, l'aventure ne fait que commencer. Bienvenue pour y participer.
Il y a vraiment deux modes de fonctionnement dans la vie. Hein. Vous avez l'intégralité des espèces vivantes, végétales, animales, bactéries, champignons, tout ce que vous voulez, qui a choisi une voie. Et puis vous avez nous, Homo sapiens, qui en avons pris une autre.
Alors, la voie de tout le vivant, elle est économe, robuste,
souple. Donc la voie de tout le vivant, c'est l'économie en éléments chimiques. On utilise très peu d'éléments parmi tous ceux qui sont disponibles sur Terre. La nature ne se paye jamais le luxe de développer une structure pour une fonction. Donc l'aile du papillon morpho, ça sert accessoirement à voler, mais c'est une fonction parmi d'autres qui n'est ni plus ni moins importante que les autres. Ça sert à absorber l'énergie solaire, ça sert à être hydrophobe, à nettoyer, etc. Et nous, on ne sait pas faire ça. On fait des objets monofonctionnels.
Et oui, on est loin de savoir faire aussi bien que la nature. Voilà en tout cas une première raison pour s'inspirer du vivant. C'est le physicien Serge Berthier, spécialiste des nanostructures du vivant, des pâtes adhésives, des geckos aux ailes multifonctions du papillon morpho qui nous le rappelait ici même. Bonjour Emmanuelle Puydébat.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager toutes les pistes de bio-inspiration possibles et imaginables sur lesquelles vous travaillez et que vous tenez à partager. Vous venez de publier, d'ailleurs aux éditions Odile Jacob, on va y venir, un superbe ouvrage. Vous êtes directrice de recherche CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste de l'évolution des comportements. Vous travaillez avec de nombreuses espèces animales, des éléphants aux grenouilles, en passant par les singes et les écrevisses. On va y revenir, bien sûr. Vous êtes l'auteur d'un premier ouvrage remarquable et remarqué sur l'intelligence animale, cervelle d'oiseau, mémoire d'éléphant. Vous venez de récidiver donc, Emmanuel, pour notre plus grand plaisir, avec ce nouvel ouvrage passionnant, franchement, publié chez Odile Jacob, « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent », où l'on découvre avec émerveillement, le mot n'est pas trop fort, au-delà des exemples les plus connus, toutes les manières dont les animaux et les végétaux, enfin tout le vivant, a de quoi nous inspirer, si seulement on décidait quoi ? De se mettre vraiment à son écoute, c'est ça?
Oui, c'est ça. Vous avez, merci pour cette présentation. Vous avez employé le bon mot, je trouve, c'est émerveillement. C'est vraiment ce qui nous manque. Je pense qu'on a perdu un petit peu de temps à observer la nature. Il suffit de l'observer un tout petit peu pour être émerveillé, fasciné et aller puiser vraiment tout ce qu'on veut en termes de source d'inspiration.
Sauf qu'il faut avoir une attitude peut-être plus humble que celle qu'on a, accepter s'ouvrir à d'autres formes d'intelligence collective, plus économe et tout aussi efficace. Serge Berthier nous rappelait que la nature est économe, frugale, n'utilise presque pas de métaux, peu de matériaux non renouvelables. C'est vraiment une autre approche.
Hein. Oui, la nature, elle optimise. Faut vraiment comprendre que la vie, elle est là depuis presque 4 milliards d'années, un peu moins, mais 4 milliards d'années, disons, et qu'en permanence, elle évolue et elle optimise. Il faut qu'elle trouve des solutions pour optimiser, donc s'en sortir, évoluer, continuer à survivre malgré des changements de climat. Et en ce moment, on sait à quel point ils sont bouleversants. Donc, elle optimise en permanence et c'est cette optimisation qui, nous, peut nous servir justement comme source d'inspiration dans tous les domaines.
Et oui, parce qu'il y a urgence, vous l'avez dit.
Mais vous avez raison, il faut de l'humilité. Sans humilité, on ne voit rien du tout.
C'est ça, ça, c'est, certainement une de vos principales qualités, Emmanuel Puydeba. En tout cas, il y a urgence, hein, vous l'avez dit, hein, de s'en inspirer, et plutôt que de désespérer Billancourt, vous préférez, Emmanuel, nous montrer d'autres voies de développement possibles pour se déplacer, par exemple, dans les airs comme sur Terre, c'est l'un de vos premiers chapitres. On peut regarder, alors comme le TGV japonais, le bec du Martin Pêcheur, par exemple.
Oui, dans les transports, c'était le rêve de Léonard de Vinci. Hein,
c'est ça, déjà.
On essaye de le...
Autour des chauves-souris.
Exactement. Et là, dans les transports, donc oui, le Martin Pêcheur a inspiré un nouveau-né au TGV japonais, puisqu'en fait, le Martin Pêcheur, quand il va pêcher, il pénètre l'eau à presque 80 km/h quand même, et il produit très peu d'éclaboussures et très peu d'ondes de choc. Et donc ça a inspiré les Japonais. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un vrai problème avec le TGV qui faisait du bruit à l'entrée des tunnels, et ça générait beaucoup de nuisances sonores pour les passagers, mais aussi pour les riverains. Et donc, ils se sont inspirés de ce bec profilé et de la structure un petit peu de ce crâne qui est très profilé pour améliorer le nez du TGV. Et ça a fonctionné, puisque les bruits ont baissé. Et en plus de ça, il y a une dépense énergétique qui s'est affaiblie. Donc voilà, c'est là où aussi on y retrouve l'intérêt majeur, je pense, de la bio-inspiration.
Aujourd'hui,
c'est l'intérêt écologique que ça peut représenter.
Et cet intérêt, alors on commence simplement à le découvrir auprès des animaux, on l'a dit, il y a les termitières par exemple, qui inspirent déjà notamment les architectes au sud, hein, pour leur système de climatisation insensé notamment. Vous nous faites aussi découvrir du côté des végétaux l'architecture des pommes de pin.
Oui, ça, j'aime beaucoup cet exemple parce qu'on a tous entendu à un moment donné pendant les vacances d'été les pommes de pin craquer. Quand elles craquent, c'est qu'elles sèchent et que du coup les aiguilles elles s'ouvrent, les épines elles s'ouvrent, les écailles elles s'ouvrent. Voilà, donc on entend ce petit craquement. Et en fait, ça a inspiré des architectes et des designers qui se sont dit, tiens, mais si quelque chose peut s'ouvrir et se fermer en fonction de l'humidité et de la température, est-ce que ça pourrait pas inspirer de nouvelles fenêtres dans certains bâtiments? Donc, ils ont créé un prototype où ça fonctionne très bien, avec des fenêtres qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction du climat, hein, de la nature environnante. Et ça, c'est chouette parce que ça fait aussi baisser des consommations énergétiques, comme pour les termitières, ça fait baisser des consommations d'énergie.
Votre livre fourmi d'exemples, hein, fourmis, j'emploie le mot pas tout à fait par hasard, parce que les fourmis, elles nous inspirent quoi? Les algorithmes fourmis, comment éviter les embouteillages, enfin c'est fou ce qu'on peut apprendre des fourmis.
Complètement, des GPS nouvelle génération, qui d'ailleurs là aussi ont un intérêt écologique, parce que cette application notamment a été utilisée, donc c'est des algorithmes, vous avez raison, qui permettent de prendre des raccourcis.
Oui, parce qu'elles sont vraiment très douées pour aller le plus rapidement possible. Le possible, enfin d'explorer et de prendre le meilleur chemin.
Exactement,
c'est ça,
hein, le meilleur chemin pour rentrer à la fourmilière par exemple. Hein, donc elles vont prendre des raccourcis, elles connaissent très très bien leur espace et donc elles ont des très bonnes capacités de navigation. Et donc ce sont ces capacités de navigation qui ont été traduites en algorithmes et qui sont utilisées pour des GPS et qui sont aussi utilisées par exemple par des camions qui vont justement aller chercher des déchets, enfin qui vont récolter les déchets. Et donc ils prennent des trajets beaucoup plus courts qu'avant pour récolter ces déchets et donc bien sûr ils consomment aussi moins de gasoil. Donc c'est aussi une économie de trajet et donc aussi une économie de carburant.
Et oui, c'est vraiment tout bénef. Et puis ça préserve aussi l'environnement, évidemment. Alors il y a même des végétaux qui pourraient le dépolluer, l'environnement. Je vous propose à ce sujet d'écouter l'éclairage très inspirant lui aussi de Claude Grison. Elle est médaille de l'innovation du CNRS pour ses travaux en chimie verte sur la dépollution des zones minières, des régions minières grâce à des végétaux. On l'écoute.
L'idée de départ est effectivement d'observer la réponse de la nature face à un scénario de pollution extrême, un stress métallique majeur. Et c'est la découverte de plantes assez exceptionnelles, hein, qu'on peut qualifier quasiment de folie végétale, puisqu'elles sont capables d'extraire des éléments métalliques à des concentrations vraiment très très élevées, donc qui a été le point de départ de ce projet.
Donc ce sont des plantes qui sont capables d'extraire du sol parce qu'elles les prennent dans leurs feuilles
Elles les extraient via le système racinaire, elles les transportent dans les tiges et vont les stocker dans les vacuoles des cellules végétales, donc dans les feuilles, donc à des concentrations vraiment extraordinaires, sous forme de complexes plus ou moins stables. Mes collègues et écologues considéraient que ces feuilles étaient des déchets contaminés, indésirables, voire dangereux, et donc n'avaient jamais développé ces solutions écologiques que la nature nous donne. Donc l'idée a été, à travers la chimie, de montrer qu'il ne s'agissait pas du tout de déchets, au contraire, des systèmes naturels extrêmement précieux, qu'allaient pouvoir donc être transformés en ressources minérales pour la chimie, alors qu'on sait par ailleurs que ces ressources minérales sont en voie d'épuisement. Donc il est absolument indispensable pour l'industrie chimique européenne de trouver de nouvelles ressources ressource minérale. Et il s'agit là d'une solution possible.
Donc, nouvelle ressource minérale recyclée dans les feuilles. Et puis aussi, ça permet de dépolluer les sols miniers.
Ça permet effectivement de dépolluer les sols miniers, donc sur le long terme. Donc, deuxième solution environnementale qui est apportée par ce scénario, eh bien, le couvert végétal qui va recouvrir ces sols complètement mis à nu aujourd'hui va confiner les poussières métalliques et va limiter leur envol par érosion éolienne vers les habitations voisines.
Donc en plus, c'est évidemment extrêmement intéressant pour les hommes qui habitent à côté.
C'est intéressant et très important. On a des exemples de cas de saturnisme développés par des enfants qui vivent à proximité du site.
Formidable, merveilleuse capacité de ces végétaux à dépolluer les sols. Encore fallait-il y penser, les étudier, les regarder, les écouter, ces végétaux. Que vous inspire Emmanuel Pouydeba, ces travaux de Claude Grison?
Ces travaux sont magnifiques. Hein. Ça montre vraiment, d'abord, c'est extrêmement précis et pointilleux comme type de recherche. Certains parlent de chimie verte. C'est vraiment tout l'intérêt d'utiliser le vivant aussi pour, en plus, non seulement s'en inspirer pour développer des processus, mais aussi pour les utiliser directement pour dépolluer.
C'est ça.
Et pour les histoires de dépollution de la nature, on peut aussi s'inspirer d'autres animaux. Les plantes ne sont pas des animaux, mais disons d'autres êtres vivants.
Ouais.
Comme par exemple en milieu aquatique, qui est extrêmement pollué pour les océans, on a des animaux, comme des crabes, mais il y en a d'autres, qui justement ont des surfaces de leur carapace qui leur permet de repousser, si vous voulez, les petites pollutions. Donc ça, ces revêtements-là sont en fait utilisés pour les reproduire sur la coque des bateaux qui sont en partie sous-marines. Et ça permet de limiter la production de biofilms sur ces coques de bateaux. C'est-à-dire cette agglomération de pollution, si vous voulez, qui peut s'accumuler sur les coques de bateaux qui sont sous-marines. Donc ça, ce sont des applications qui sont directement tirées de la nature.
C'est ça, et des applications directes, immédiates, en fait. Ouais. Alors, vous travaillez, vous, Emmanuel Pouydeba, actuellement, sur un projet de recherche que vous en avez parlé. Ça me fascine complètement sur les troncs. Des éléphants,
oui,
c'est ça?
Moi aussi, ça me fascine.
Incroyable organe, hein, franchement. Alors là.
Les éléphants sont des animaux qui sont assez emblématiques et assez mystérieux quelque part. Moi, ça me fascine depuis très longtemps. Et l'évolution des éléphants, elle est fascinante. Et en particulier, l'évolution de leur trompe. À la base, les premiers éléphants, a priori, n'avaient pas de trompe. Et c'est un organe qui s'est allongé au fur et à mesure de l'évolution. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et quand je les observe depuis longtemps, je me suis rapidement rendu compte qu'ils pouvaient attraper des pop-corns, manipuler des pop-corns. Donc c'est quelque chose quand même de tout petit pour un éléphant.
Oui, qui se casse, hein.
Oui, c'est ça. Et il les manipule très, très, très bien, avec une grande dextérité. Et en même temps, ils peuvent vous déraciner un arbre. Et je me suis dit, tiens, ils savent faire tout ça. Et en même temps, là-dedans, il n'y a pas de squelette, il n'y a pas d'articulation à proprement parler. Donc, d'un point de vue biologique et écologique, c'est fascinant parce que l'évolution de cette trompe, qu'est-ce qui s'est passé en milieu forestier, en milieu ouvert, qu'est-ce que ça a changé? Et en même temps, est-ce qu'ils soient capables de faire tout ça sans squelette? Ça fascine un autre champ de la recherche qui est la robotique molle,
et
voilà, la robotique souple qui est en plein essor en ce moment.
Et qui rêverait de faire presque aussi bien que les éléphants avec leur trompe.
Exactement. Et donc, l'idée, c'est de leur transmettre des données biologiques, donc de comportement, mais aussi d'anatomie et surtout de biomécanique, quelle force ils utilisent, ils accomplissent pour manipuler des objets. Et donc ça, l'idée, c'est de récolter plein de données biologiques pour les transférer ensuite à la robotique pour créer des nouveaux robots souples qui puissent être utilisés dans la médecine ou dans l'industrie.
Et comment est-ce qu'on arrive à étudier ou à recueillir toutes ces données-là? On regarde ce que font les éléphants, on étudie, on mesure. Comment on perd ce secret des
Il y a deux manières de percer ce secret-là, si on y arrive. Hein. En tout cas, il y a une partie qui peut se faire en milieu naturel. Là, l'équipe que je coordonne part bientôt là, en Afrique du Sud et en Namibie pour comparer des populations d'éléphants en milieu très désertique et en milieu plutôt forêt-galerie, disons. Donc, pour comprendre comment est-ce qu'ils utilisent leur trompe, dans quel type de comportement, les comportements alimentaires, oui, des petites nourritures, des grandes nourritures, les contacts sociaux, etc. Donc ça, c'est pour avoir des données du réel, hein, de qu'est-ce que font les éléphants pour de vrai. Et puis ensuite, pour prendre des mesures, on va en parc zoologique. En l'occurrence, là, on travaille avec le zoo de Beauval. Avec leur petite population d'éléphants de savane d'Afrique, on est en train de mettre en place des dispositifs, enfin on les a déjà testés, ça marche plutôt bien, pour essayer de comprendre quelle est la morphologie de la partie distale, donc la partie extrême de la trompe, l'extrémité de la trompe.
Ce qui attrape, enfin le bout de la trompe, oui.
Qui est beaucoup plus variable que ce qu'on peut le croire. Donc on essaie de quantifier ça.
Et sensible peut-être.
Très sensible. Et on est en train de mettre au point un dispositif pour quantifier leur force de saisie, donc pour attraper et pour tirer. Voilà, donc là on est en train de mettre en place tous ces dispositifs-là. Les premiers tests qu'on a faits sont plutôt prometteurs, donc j'ai hâte de voir la suite.
Ah ben oui, on ne regardera plus jamais les trompes des éléphants de la même manière.
Non.
Alors on ne regardera plus non plus les écrevisses ou les pattes d'écrevisses de la même manière. Autre de vos projets de recherche qui inspirent là encore les roboticiens, ce sont les... Qu'est-ce qu'elles ont de si extraordinaire, les écrevisses
Les écrevisses, en fait, nous, on s'y intéressait avec mon collègue Raphaël Cornette parce qu'on a des écrevisses qui sont invasives en France, hein, qui viennent sont des écrevisses américaines, Louisiane, Signal, etc.
Et donc, au départ, ce n'est pas un projet de bio-inspiration.
Non,
au départ,
c'est pour ça que c'est un exemple intéressant.
C'est très intéressant.
C'est un exemple vraiment à la base de biologie, écologie, entre guillemets, assez classique. On essaie de comprendre pourquoi une espèce est invasive. Et donc, on va travailler sur les performances de cette espèce. C'est-à-dire et justement, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'est ses pinces, puisqu'elles ont des pinces extrêmement puissantes qui leur permet, en gros, de tout bouffer. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein.
Ah, voilà pourquoi donc, elles sont si invasives. Parce qu'en fait, elles mangent tout.
Elles mangent tout. Et puis, elles sont, pour certaines, très agressives. Donc, en gros, elles vont occuper le terrain et puis dominer leur territoire. Et en fait, donc, on a fait des tests de force de ces pinces et on s'est rendu compte qu'elles étaient très puissantes. Et en plus, c'est un exosquelette. C'est-à-dire que c'est la pince, c'est un squelette qui est externe chez ces animaux-là. Et en discutant avec un roboticien, moi, je fais beaucoup d'interdisciplinarité depuis toujours. C'est ce qui me fascine le plus. Donc, en discutant un jour avec un roboticien, il m'a dit, mais c'est extraordinaire parce que nous, on travaille sur la création de prothèses pour des handicapés. Donc
des exosquelettes.
Exactement, des exosquelettes. Merci. Qui sont à deux doigts ou voire trois maximum fonctionnels. Après, c'est de l'esthétique hein, pour combler la main. Mais donc, lui, ça l'intéressait parce qu'en fait, les roboticiens utilisent énormément la main des humains comme modèle. Le problème de la main des humains, c'est qu'elle a cinq doigts. Alors, nous, on voit ça comme un avantage. Mais pour simplifier mathématiquement les mouvements, c'est très compliqué. L'avantage de l'écrevisse, c'est qu'elle n'en a que deux paires, hein, si on prend la droite et la gauche, deux paires de doigts. Donc, c'est beaucoup plus facile, si vous voulez, à modéliser d'un point de vue mathématique. Voilà. Et pourtant, elles sont très fortes. Elles font énormément de choses, à la fois précises et puissantes à la fois.
Oui, c'est ça. Finalement, déjà, la pince, c'est formidable. Quoi,
exactement.
En fait. C'est ça, hein.
En fait, avec une pince, vous faites déjà énormément de choses en termes de préhension et de manipulation. Donc, ça a donné lieu à un début de projet. Là, c'est vraiment les prémices. Et donc là, en ce moment, je suis un peu plus sur le projet éléphant, mais j'espère que ça aboutira aussi, ces histoires d'écrevisses.
On souhaite le meilleur au projet écrevisse comme au projet éléphant. On n'arrête pas le progrès. Au contraire, mais on change de paradigme autour de cette question de la bio-inspiration avec les écrevisses de Zachary Richard, le rocker cajun de Louisiane sur RFI.
Dans le sud de la Louisiane, près d'un bâton rouge, y'a une petite bébête qui habite dans la boue. Ils ont deux grandes pinces, une petite queue. Et quand c'est bien assaisonné, bébé, y'a rien qui est mieux. Crawfish, j'en ai si t'en as envie. Crawfish, j'ai dit mange les quand c'est chaud. Crawfish, on va faire une grande bouillie. Crawfish, ça c'est bon. De grandes pinces, petites queues. Personne ne sait, mais le chacun tient compte qui connaît. Quand le vieux était déporté de l'Acadie, ça dit les pauvres mains nous ont suivi. Crawfish, j'en ai si dans l'envie. Crawfish, j'ai dit mange les consignes chaudes. Crawfish, faire un grand bruit. Crawfish.
Les écrevisses de Zachary Richard qui nous inspirent sur RFI autour de la question de la bio-inspiration en compagnie d'Emmanuelle Puy-Débat, chercheuse spécialisée dans l'évolution des comportements qui vient de publier après l'intelligence animale, Quand les animaux et les végétaux nous inspirent, ouvrage inspirant, drôle, insolite et merveilleux, dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs. Il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Vous découvrirez notamment que certains animaux, parmi les plus dangereux de la planète, produisent aussi, mine de rien, le plus puissant antidouleur imaginable. C'est le cas du venin du terrible mamba noir, l'un des serpents les plus venimeux au monde, sur lequel ont travaillé les équipes d'Éric Linguegliat à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, Anne Baron et Sylvie Diochot-Georgi, en lien avec leurs collègues du Sud, extrait d'une vidéo du CNRS Mamba Noir et Mambalgine.
Donc en fait, dans ce venin, on a découvert deux molécules, les mambalgines, on les a appelées mambalgines 1 et 2, qui sont des constituants minoritaires dans le venin, moins de 0,5%. Et il se trouve que ces mambalgines vont bloquer avec une très bonne affinité des canaux ioniques que nous étudions. Ce sont les canaux ACIC, qui sont en fait des protéines qui sont impliquées dans la détection du signal douloureux et dans sa transmission dans le système nerveux. Une fois qu'on a eu les molécules pures, les mambalgines, on a été capable de les injecter dans le système nerveux central ou périphérique chez l'animal. Et là, avec des modèles de douleur bien calibrés, on a pu déterminer effectivement que ces molécules avaient un effet analgésique. Donc dans le cadre des mambalgines, il s'est avéré qu'elles ont eu des propriétés très fortement analgésiques chez la souris lors de leur injection dans le système nerveux. Et on a pu mettre en parallèle ces effets analgésiques avec ceux produits par la morphine dans le même cadre, avec le même type d'expérience. Et il se trouve que les effets des mambalgines sont aussi puissants que ceux de la morphine, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires.
Extraordinaire, hein, les pouvoirs antidouleurs de cette mambalgine issue du venin d'un des serpents les plus venimeux au monde. Ça vous inspire.
Ah ouais, c'est génial. Moi, je trouve que c'est vraiment une découverte qui est géniale. Et d'ailleurs, il y a plusieurs cas comme ça de découvertes, de travaux sur les différents venins de différentes espèces qui montrent qu'il y a des propriétés utilisables par la médecine derrière. Il y a ça aussi chez un lézard qui s'appelle l'héloderme, qui a un venin à la base des dents. Qui peut être utilisé pour lutter contre le diabète, par exemple. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont magnifiques.
C'est des pistes. On se demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus développé? Ça pose quand même toute la question de la bio-inspiration. On se dit pourquoi est-ce que ça ne remplace pas tous nos antalgiques qui causent de gros problèmes. C'est vraiment une vraie question, la douleur, qu'on n'arrive pas à résoudre. Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite? Est-ce que les industriels sont intéressés? Et comment faire? Ça pose plein de questions.
Oui, ça pose plein de questions. Et je pense que dans le cas de la mambalgine, il y a aussi tout un problème, là pour le coup purement financier. C'est-à-dire que pour valider une molécule et la transmettre sur le marché, il faut aussi faire plein de tests cliniques et ça coûte très cher. Et donc il y a un moment donné où ces équipes-là sont probablement bloquées par un manque de financement suffisant pour valider les essais cliniques.
Oui, elles sont obligées de faire leurs essais sur des animaux. Là, il n'y a pas le choix pour pouvoir. Mais ensuite, il faut passer à des essais cliniques sur des humains.
C'est ça, pour essayer de voir si ça fonctionne sur les humains et si on peut le mettre sur le marché sans qu'il y ait d'effet indésirable. Et c'est cette étape-là coûte très cher. Et malheureusement, cette étape-là, parfois, elle n'a pas lieu par manque de financement. Et malheureusement, ces découvertes-là n'arrivent des fois jamais sur le marché.
Et en plus, ce qu'on peut regretter aussi, c'est que ces découvertes-là se font souvent sur des animaux sous les tropiques ou sur des animaux au sud. Donc, c'est des découvertes qui pourraient à la fois être faites sur place par des chercheurs locaux du sud et qui pourraient bénéficier immédiatement au sud. Enfin, on se dit, là il y a effectivement, il faut faire des essais humains, mais là, il faudrait mettre les moyens. Enfin, on a envie on n'arrive pas à changer de paradigme.
Non, c'est sûr. Là, c'est extrêmement frustrant et je me mets à la place de cette équipe de recherche qui fait une découverte magnifique et qui ne peut pas aller au bout pour des questions financières. Ça fait partie des côtés extrêmement frustrants du métier parfois.
Et c'est vrai que c'est ce qu'on se dit en lisant votre ouvrage, notamment sur ce chapitre sur les animaux et les végétaux, source d'inspiration pour soigner, pour d'autres approches des maladies. Il y a plein de cas et on se dit mais vraiment, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire plus vite? Je propose d'ailleurs, vous le citez, cet exemple-là, l'exemple du fameux, pas très ragoûtant, ratopnu. Lui, il échappe à tout, au sida, au cancer, à Alzheimer et j'en passe. C'est pas de l'intox, c'est vraiment le quotidien du ratopnu, petite souris peu ragoûtante, je l'ai dit, que nous présente le docteur Frédéric Saldmann.
Le ratopnu est une petite souris qui vit en Afrique de l'Est, Somalie, Éthiopie et un petit peu Kenya. Elle vit 30 ans, alors que d'habitude, une souris, ça vit 2 ans, 3 ans maximum. Donc 30 ans, qu'est-ce que c'est? C'est 600 ans pour un humain. Elle résiste au cancer, Alzheimer, maladies cardiovasculaires. Quand on implante des tumeurs cancéreuses, même violentes, elle les rejette. Elle ne vieillit pas. Au bout de 30 ans, 32 ans, elle est intacte. Fertilité intacte, peau intacte, organes ne présentant aucun signe d'usure. Elle défie le temps. Le ratopnu va traverser sa vie très oxydée. Ça remet en question tout ce qu'on savait. Quand vous coupez l'oxygène et que vous empêchez le ratopnu de respirer pendant 18 minutes, il revient à lui et le cerveau est intact. Un humain, au bout de 3 minutes, est mort. Au lieu de chercher d'un côté le cancer, de l'autre côté l'Alzheimer, de l'autre côté le cœur, on se voit que c'est le même système qui protège de l'ensemble. On est en train de rentrer dans un monde où tout ce qui paraissait impossible devient possible. La science-fiction retient la science. C'est du jamais vu.
Du jamais vu, ça c'est sûr, de l'incompréhensible pour le moment, hein, pour nous humains, sauf que Emmanuel Pouilleva, moi j'aimerais pas trop ressembler à ce rat, hein, c'est pas une souris, c'est une grosse souris avec des grandes dents. voilà. Mais en même temps, c'est complètement fascinant.
Alors, c'est vrai que d'un point de vue physiologique, faut reconnaître que c'est assez consternant. En plus, il régénère ses neurones. Enfin, il y a énormément de choses en plus de ce qui a été dit. Enfin, c'est vrai que c'est assez hallucinant. Après, il faut faire un petit peu attention justement à ces histoires de science-fiction. Je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour l'humanité de rêver d'immortalité et de travailler sur ces questions-là pour l'immortalité. Par contre, effectivement, pour tout ce qui est vieillir mieux et les maladies comme le cancer, par exemple, effectivement, si ça peut nous aider à faire avancer ces questions-là et trouver d'autres solutions, enfin, différentes pistes, alors oui, effectivement, c'est un bon modèle.
Et il y a d'autres animaux qui peuvent nous donner des pistes. Alors, vous citez l'exemple. Alors, il y a les requins, il y a les koalas.
C'est
pour lutter contre le cancer, parfois contre le sida.
La grippe saisonnière aussi, qui mute. Enfin, il y a pas mal d'exemples. Alors, le requin, c'est pour tout ce qui est cicatrisation et aussi pour ce qui est lié au cancer. Hein. Il a une protéine, la squalamine, qui, on pense, est impliquée justement dans la limitation des mutations des cellules qui font qu'elles deviennent cancéreuses. Le koala, lui, il arrive à intégrer le virus du sida, une sorte de virus neutralisé du sida, il l'intègre à son ADN. Le lama, qui a une capacité à lutter contre les virus de la grippe, même s'ils sont en pleine mutation. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples à aller puiser.
Et jusqu'aux méduses qui, elles, parlent aussi de rajeunissement. Enfin,
oui,
là, c'est complètement
fou. C'est un cas unique jusqu'à ce qu'on en découvre d'autres, peut-être. Hein, mais c'est une toute petite méduse, en fait, qui est capable d'inverser son cycle de vieillissement, le cycle de la vie. C'est-à-dire qu'elle est capable de revenir à un stade polype, c'est-à-dire son stade juvénile pour cette espèce-là, et de repartir dans un cycle de vieillissement. Alors, c'est un processus qui est unique, avec des millions de guillemets, en tout cas à ce jour, et qui, évidemment, n'est pas forcément, et encore heureux, reproductible sur nous. On est bien d'accord, la méduse, elle n'a pas le même fonctionnement
que
nous.
On est d'accord.
Hein. Mais c'est vrai que c'est un cas quand même assez ahurissant. Ça ne veut pas dire qu'elle est immortelle, hein, parce qu'elle peut très bien mourir d'un accident de la vie comme n'importe quel être vivant aujourd'hui. Mais c'est un processus d'inversion du cycle de la vie qui est assez consternant.
En tout cas, de quoi nous inspirer, effectivement, inspirer les chercheurs. Alors, vous travaillez, vous l'avez dit beaucoup, en interdisciplinarité, avec des roboticiens, avec des physiciens, avec des chimistes. Vous travaillez aussi avec une célèbre primatologue que nous aimons beaucoup, Sabrina Krief. Non, c'est vous, Emmanuel. Et elle, c'est Sabrina Krief. Alors, elle a mis en évidence chez les chimpanzés de la forêt de Kibale en Ouganda, où elle est d'ailleurs actuellement, une véritable pharmacopée. Hein. Les chimpanzés utilisent à dessein certaines plantes pour se soigner. Je vous propose d'écouter d'abord Sabrina Krief, et puis vous nous expliquerez, Emmanuel, ensuite, comment vous travaillez avec elle et les chimpanzés de nouvelles pistes antipaludiques.
L'idée, c'est que si la plante a vraiment une activité biologique et est comme un médicament, ce chimpanzé ne va pas en consommer des grosses quantités, sinon il va s'empoisonner. Donc ce sont souvent des très petites quantités qui sont consommées, donc des instants très furtifs, et le moment généralement où le chimpanzé va s'écarter du groupe pour aller prendre quelque chose de différent, c'est ce moment-là qui est difficile à observer. Mais avec de la patience, et en connaissant bien le régime alimentaire habituel des chimpanzés, donc ce que sont vraiment les aliments qui nourrissent, on arrive à voir certaines plantes, des écorces par exemple, ou des racines qui sont consommées très rarement et par des individus soit qui sont gênés au niveau respiratoire, qui ont de la diarrhée ou qui sont abattus. Et ça nous donne des indices sur les plantes à collecter, à travailler au niveau chimique. On teste leurs activités biologiques, donc par exemple sur l'agent du paludisme ou bien sur des bactéries. Ça nous a permis de mettre à jour des molécules nouvelles qui n'avaient jamais été décrites auparavant à partir des plantes que consommaient les chimpanzés, particulièrement des plantes à activité antipaludique.
Et c'est précisément enfin, sur ces extraits de plantes antipaludiques que vous travaillez, Emmanuel Poudéba, avec Sabrina Krief, jusque dans les nids, c'est-à-dire là où dorment les chimpanzés,
oui,
c'est ça ?
Tout à fait. Moi, j'étais fascinée par le fait que les chimpanzés fassent des nids quotidiennement pour dormir. Et ce qui me fascinait, c'était de voir qu'ils étaient capables de construire des nids à 30 mètres de haut. Et je me suis dit, mais comment ils font ? Il faut que ce soit solide, élastique à la fois. Donc ça m'intéressait. On en avait discuté avec...
C'est pas des hamacs, mais c'est des nids.
C'est ça. C'est vrai nids. Hein. Il y a un entrelacement des branches qui est assez complexe, d'ailleurs. Et donc, avec Sabrina, on en avait discuté. Elle m'avait dit oui. Et en plus, là où ils construisent leur nid, il y a moins de tiques et beaucoup moins de moustiques que les endroits où ils ne les construisent pas.
Ah, là où ils placent leur nid.
Exactement. Mmh. Là où ils construisent. Exactement. Donc, du coup, on s'est dit, mais c'est sûrement un compromis, ces histoires de nid, entre un choix de végétaux qui soit suffisamment élastique et solide à la fois, et en même temps, probablement, qui ont des propriétés répulsives pour les tiques et les moustiques. Donc, ça, voilà, on parlait de l'argent tout à l'heure, c'est le nerf de la guerre. On a trouvé un partenaire privé, donc un industriel qui est intéressé par ces questions-là, pour essayer, idéalement, de produire des répulsifs après pour les moustiques. Hein, ça tue des centaines de milliers de personnes.
Absolument. Et puis, donc les chimpanzés auraient d'autres manières que moustiques imprégnés. Hein, moustiquaires imprégnés, pardon.
Oui, complètement. Donc, ce qui nous intéresse, et on a une doctorante, Camille Lacroux, qui travaille sur ce projet-là, c'est ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre quels sont les choix de végétaux qu'ils font pour construire leur nid, et est-ce que ces choix-là ont des propriétés répulsives pour les tiques et les moustiques.
Il faut déjà le déterminer et ensuite découvrir quelles plantes.
Ensuite, quelles plantes et quelles molécules sont impliquées.
Alors, les grands singes, les chimpanzés, évidemment, nous inspirent beaucoup. Vous avez déjà sur la construction de leur nid aussi, sur toute leur pharmacopée, les plantes qu'ils utilisent. Mais pas seulement, hein, vous parlez aussi de leur empathie et de la manière dont ils traitent les autres chimpanzés blessés, handicapés, différents.
Oui, alors c'est vrai que dans le monde animal, on peut aussi s'inspirer de son comportement, pas de tous, hein, mais de certains en tout cas,
pas
ce qui
tous,
est sûr.
On est d'accord, oui.
De certains, c'est sûr. L'empathie, ça en fait partie. La coopération, c'est pour ça que j'aime bien parler d'intelligence collective. Et c'est vrai qu'on a des cas d'entraide dans le monde animal. On a des cas en captivité en particulier d'une femelle qui avait de l'arthrose et qui du coup avait du mal à se déplacer. Et certains congénères voulaient l'aider à se déplacer. On a aussi des cas chez les éléphants. On parlait des éléphants tout à l'heure. On sait que quand des petits se font piéger dans la boue, il y a beaucoup d'entraide entre les adultes pour les sortir de la boue.
Pareil, les adultes se mettent à plusieurs pour les sortir de la boue.
Pour essayer d'extraire les petits qui sont coincés dans la boue. On a des cas d'entraide pour enlever des lances quand quand des éléphants se sont fait attaquer par des chasseurs.
Ah,
donc, avec leur trompe, exactement. Et il y a plusieurs cas comme ça d'entraide. Après, il n'y a pas besoin d'aller forcément chercher très loin. Mm-hmm. Hein, s'il y a des gens qui ont eu des rats chez eux, il y a énormément de coopération et d'empathie chez les rats. On sait très bien qu'un rat, il préférera sauver l'autre plutôt et manger avec lui plutôt que de manger avant d'aller sauver l'autre, par exemple. Et ça va même très loin. Chez les rats, il y a des expériences. Heureusement, on ne fait plus ce type d'expérience, mais elles ont eu le mérite de montrer qu'un rat préférait... arrêter de manger si ça impliquait une souffrance pour un congénère, par exemple. Donc c'est des vrais, il y a de plus en plus de papiers actuels avec d'autres types de protocoles, je vous rassure, qui permettent de montrer qu'il y a de l'empathie dans le monde animal.
C'est ça qui vous fascine le plus ? Qu'est-ce qui vous... On parle d'émerveillement à vous lire, c'est insensé, on ne peut pas parler de tous les exemples, mais vraiment, je conseille à nos amis auditeurs qui peut-être gagneront votre livre, de le dévorer hein, quand les animaux et les végétaux nous inspirent. Emmanuel Poudéba, qu'est-ce qui vous inspire le plus ? C'est colossal, mais est-ce que vous auriez comme ça un exemple, puisqu'on est dans la bio-inspiration ?
Honnêtement, ce qui m'intéresse dans la bio-inspiration, juste d'avoir de l'émerveillement devant une coccinelle, je l'avais petite, je l'ai encore aujourd'hui.
C'est
vrai. Peux passer 2 heures à regarder un rouge-gorge ou une. Enfin,
coccinelle formidable anti.
Anti-puceron.
Anti-puceron, c'est ça, par exemple. Nos alliés.
C'est sûr. Mais j'ai toujours cette émotion que j'avais enfant avec les animaux et ça, c'est fantastique. Aujourd'hui, la bio-inspiration, si vous voulez, la situation est tellement dramatique d'un point de vue de la perte de la biodiversité que je me dis, il faut quand même qu'on fasse un peu tout ce qu'on peut, alors à notre échelle. Hein. Et je trouve que la biodiversité, ça peut être un formidable atout pour montrer leur utilité, même si c'est paradoxal, c'est triste de devoir montrer l'utilité de quelque chose pour essayer de le sauver, mais de montrer l'utilité du vivant et tout ce qu'on est en train de perdre. Donc je pense que cet émerveillement que j'ai pour la nature, à un moment donné, il faut qu'il soit utilisé pour montrer l'intérêt pour les gens qui ont de l'argent de les sauver. Voilà. Parce que si nous, avec l'argent que cet industriel, ce partenaire nous offre, finalement, on va pouvoir comprendre comment est-ce que les chimpanzés utilisent des végétaux pour se protéger du palu, on arrive à produire un produit qui fait gagner de l'argent à ce monsieur et à son entreprise, tant mieux, mais en échange, nous, on peut protéger les chimpanzés. Sabrina utilise aussi cet argent pour protéger les chimpanzés. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est gagnant-gagnant. C'est ce que je cherche avec le monde animal. C'est toujours transmettre mon émerveillement. C'est encore un cri d'amour pour la nature, ce livre. Hein. Mais c'est aussi montrer qu'il y a des solutions et qu'on peut en trouver tous ensemble. Voilà.
Et que ça fait du bien autour de la question pourquoi et comment s'inspirer des animaux et des végétaux. Ça fait du bien à tout le monde, hein, à eux comme à nous. Pas sûr tout de même qu'ils fassent s'inspirer de tous les comportements des chimpanzés, puisqu'on parlait d'eux. À vous de juger, chers amis auditeurs, cette chanson de Thomas Fersen, « Mange mes poux » sur RFI.
Je peux vous dire que ces deux singes étaient loin d'être stupides. Ils se grattaient les méninges tout en se frottant le bide. Leur langage n'est pas le nôtre, mais je compris néanmoins que l'un demandait à l'autre de le suivre dans un coin. Veux-tu me rendre un service au lieu de te balancer? Pour toi c'est tout bénéfice, ça devrait t'intéresser. Si tu aimes les bons petits plats, détends-toi, nous ta serviette. Mon ami, assieds-toi là, je t'en prie, sans faire de miettes. Mange mes poux, oh. Je te laisse roupiller. Et l'autre se mit à table, mangeant les poux un par un, car il était charitable et en plus il avait faim. Il avala les bestioles car il était très gourmand. Puis il lécha la casserole et éructa bruyamment. C'est dit le singe rôteur, bon pour moi d'en absorber, parce que selon mon docteur c'est plein de vitamine B. À mon tour de recevoir échange de bons procédés, avant de se dire au revoir j'ai un truc à te demander. Mange mes poux, oh, mange mes poux. Je n'ai pas mangé tout seul. Mange mes poux, mange mes poux, mange mes poux,
mange mes poux. Mange mes poux, Thomas Fersen sur RFI, autour de la question de la bio-inspiration, du biomimétisme qui a tout de même ses limites, Emmanuel Puydébat, hein, Mange mes poux, la chanson est bien, mais peut-être que ça, on va pas le...
Oh, c'est peut-être pas indispensable, oui.
De s'en inspirer.
Non, oui, il ne faut pas s'inspirer de tout. Hein. Inspirons-nous du meilleur, ce sera déjà bien.
D'ailleurs, vous n'aimez pas le terme de bio... Enfin, vous préférez le terme de bio-inspiration au terme de biomimétisme, qui est très courant. Il ne s'agit pas de copier... Hein. Enfin, oui. Je ne parle pas de cette géniale chanson « Mange mes poux », mais il ne s'agit pas de copier la nature, il s'agit... de s'en inspirer,
ouais,
c'est
tout
ça.
Tout à fait. Dans la définition puriste du biomimétisme, il n'y a pas de notion de recopier, il y a la notion de s'inspirer, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que dans le mot en lui-même, en termes de communication pour le grand public, je trouve que biomimétisme, il y a la notion mimétisme, mimé, qui moi me gêne un peu dans le mot en lui-même. C'est pour ça que je préfère parler de bio-inspiration. On ne peut pas recopier, il y a des choses qu'on ne sait pas recopier. Au début de l'émission, vous parliez du papillon morpho.
Papillon bleu, c'est les ailes du papillon
morpho.
Il est
sublime, c'est un papillon qui est extraordinairement beau. Et dans la structure de ses ailes, d'ailleurs, on est dans du nanomètre, hein, c'est ce que vous expliquez. Bah là, dans l'ordre du nanomètre, on a bien du mal à recopier. Donc c'est pour ça, c'est cette
idée. Il est incroyable.
Idée,
pourquoi? Redites-nous en quelques mots.
Parce qu'en
mots,
fait, la structure de ses ailes, que ce soit les stries, les écailles, les pigments qui composent ses ailes, lui permettent en fait d'accommoder ses ailes, même malgré de très très fortes chaleurs. Et dans nos panneaux photothermiques, par exemple, on a parfois dans nos panneaux solaires, hein, on a parfois du mal à les rendre efficaces, voire à ce qu'ils survivent finalement à de très fortes températures au-delà de 50 degrés.
Est-ce que donc le papillon pourrait... morpho sait faire? On pourrait s'en inspirer pour nos panneaux solaires.
C'est déjà le cas.
Hein,
il y a des gens qui travaillent là-dessus pour essayer justement de créer de nouveaux panneaux photothermiques. Mais encore une fois, voilà, on a du mal à recopier. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire dans les matériaux. Pareil pour l'architecture. Hein. Un des grands défis de demain, là, dès aujourd'hui, hein, on a une doctorante qui travaille là-dessus, par exemple, en termes d'architecture, c'est vraiment s'inspirer de nouveaux matériaux avec des échanges extérieurs-intérieurs pour des économies d'énergie, etc.
Oui, les échanges sont nombreux. Vous dites qu'il nous faut, et que c'est urgent, hein, finalement, d'écouter la nature. Vous dites aussi ouvrir le grand livre de la nature, qu'il en va effectivement de notre salut, comme de celui de tout le vivant avec lequel nous cohabitons plutôt mal, on peut le dire, jusqu'à présent, alors qu'il propose effectivement le vivant beaucoup de pistes et de solutions même à beaucoup de nos problèmes. Autour de la question comment s'inspirer des animaux et des végétaux, même et surtout des plus anciens, hein, qui vivent sur Terre depuis bien plus longtemps que nous et qui y vivront sûrement encore bien plus longtemps que nous. Nous avons reçu Emmanuel Pouydébat la semaine dernière, un autre formidable chercheur, alors lui il est plongeur aussi, Laurent Chauveau, qui travaille sur les coquilles Saint-Jacques, ces formidables bivalves qui sont aussi des sentinelles de l'environnement. Elles sont musiciennes, on ne viendra pas là-dessus. Archivistes et historiennes de l'évolution de la Terre et, et du climat, puisque dans leurs coquilles et des coquilles Saint-Jacques, elles archivent chaque minute, chaque heure, chaque jour les modifications des températures, d'acidité des océans auxquelles elles sont si sensibles. Je propose d'écouter l'éclairage inouï de Laurent Chauveau sur les coquilles Saint-Jacques, un livre ouvert sur le passé, le présent et l'avenir de la Terre et en passant de nous-mêmes.
C'est très abstrait, hein, mais je trouve que cette idée d'abord de coquille Saint-Jacques, puis d'archives, et finalement transformer une coquille Saint-Jacques en un espèce de livre qui l'animal fabriquant une page par jour, et cet apprentissage de la lecture, d'une écriture qui ressemble à des hiéroglyphes chimiques. Hein, on s'est transformé en Champollion et on a décrypté la chimie d'une coquille Saint-Jacques et donc l'écriture d'une coquille Saint-Jacques à l'échelle du livre. Je trouve que le truc que je trouve le plus dingue, c'est que finalement, on a dans la nature des archives qui ressemblent à des livres dont l'écriture reste à décrypter.
Et, sur la coquille
sur la coquille. Alors ensuite, on s'en va vers aujourd'hui des animaux qui ont le bon goût de ne pas vivre 10 ans, mais de vivre 500 ans. Les animaux les plus vieux de la Terre sont des bivalves. Ils vivent en France, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on a quelques sous maintenant pour aller étudier ces animaux-là. Et 500 ans d'histoire. Donc, il existe des livres de 500 pages ou de plus de 500 pages qui sont posés au fond de la mer avec des animaux qui écrivent chaque jour des informations pour nous, à nous d'aller lire ça, vous voyez. Et ça inspire pas mal cette idée d'une nature qui a inventé l'archivage ou qui a inventé des écritures qui nous restent à apprendre.
Très joli éclairage de Laurent Chauveau qui doit vous inspirer, Emmanuel Pouydébat, parce que là, c'est vraiment, on est dans l'inspiration.
Ah oui, c'est magnifique. Alors d'abord, c'est très poétique, cette manière de décrire les choses, donc j'adore forcément. Et ensuite de ça, effectivement, dans la nature, on va trouver des marqueurs du temps, que ce soit des marqueurs climatiques et des marqueurs de l'histoire du climat du passé. Et là, l'exemple des coquilles Saint-Jacques est magnifique. Hein.
Ça, on pense aux arbres, évidemment.
Oui,
mais alors là,
la dendrochronologie aussi, enfin, où on va regarder la structure et ces cernes de croissance pour les arbres. Hein. Il y en a un par an, etc. Donc effectivement, en les analysant, on peut comprendre un petit peu le climat du passé. Et là, pour des coquilles Saint-Jacques, c'est vrai que c'est assez improbable. Je ne m'y attendais pas. C'est une magnifique découverte.
On se dit que justement, on ne s'y attend pas. Même quand on vous lit, vous nous donnez des exemples qui sortent de ce dont on a l'habitude. Peut-être les sonars des chauves-souris ou même les ailes des avions inspirées des rapaces. On a l'impression qu'on en découvre, enfin que vous en cherchez, découvrez tous les jours, parfois par hasard, parfois pour d'autres raisons d'ailleurs, un peu par sérendipité. Mais on se demande pourquoi est-ce qu'on s'en inspire pas plus? Pourquoi est-ce qu'on en entend pas plus? Parce que finalement, on en a tous besoin. Enfin, c'est une urgence absolue d'apprendre à faire autrement. Vous donnez des recettes, vous donnez les conseils. Il faut d'abord de l'humilité, hein, pour écouter la nature. Oui.
Il faut du temps pour l'observer aussi, malheureusement.
Il faut du temps, bien sûr.
Et
plus beaucoup de temps, mais bon.
Non, le temps passe malheureusement très vite. Et c'est vrai qu'en fonction de la vie des gens, c'est pas simple de prendre 2 heures pour aller observer une coccinelle. Mais nous, dans nos métiers, pour le coup, moi, mon métier, c'est de l'observer, de l'étudier, de la comprendre, cette nature. Donc, c'est ça qui me fascine. Et c'est vrai que je pense qu'on... Alors, on y travaille. Le muséum, en ce moment, essaye de justement...
Le
Muséum national d'histoire naturelle essaie justement de développer ces questions-là. Peut-être un problème majeur qu'on a, c'est la mise en relation des bonnes personnes. Parce qu'en fait, effectivement, vous pouvez... moi, j'ai vraiment deux exemples très concrets. On a parlé de mon projet Écrevisse et du projet Éléphant. Les deux sont arrivés de manière différente. Il y en a une, c'est une question écologique à la base. Et puis qui va ensuite être enchaîné par une demande d'un roboticien. Donc les demandes peuvent en fait venir du privé. Et puis finalement, vous, en tant que biologiste, vous pouvez faire des découvertes et vous avez envie de les transférer vers le privé, vers l'industrie, etc.
Oui, pour que ça produise vraiment quelque chose.
Exactement, pour qu'il y ait une application très concrète. Et puis le problème, c'est que des fois, on n'a pas les interlocuteurs. On a beau chercher, c'est pas si évident que ça, ni pour nous, ni pour les industriels, probablement. Donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de créer un grand réseau pour qu'on arrive à se parler beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on a fait une découverte, qui ça peut intéresser, qu'on passe pas 3 semaines, 3 mois, 3 ans à trouver le bon interlocuteur.
Et au fond, même au niveau international, enfin, que ça puisse vraiment.
Bien sûr.
Au nord comme au sud,
où
se trouve aussi beaucoup d'inspiration
humaine
et animale.
Il ne faut surtout pas qu'il y ait de frontières dans la bio-inspiration. Et idéalement, vraiment, il faudrait qu'il y ait le plus de connexions possible entre les biologistes et puis toutes les autres personnes. Enfin, on n'est certainement pas au cœur du truc, hein. Mais il faut vraiment que justement, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un au cœur. Il faut que chacun va avoir des questions différentes et il faut essayer de créer une espèce de toile où tout le monde pourrait trouver les bons interlocuteurs quand il a fait une découverte ou quand il a une idée de développer quelque chose, un bâtiment écologique, un transport écologique, je ne sais pas quoi, quelle que soit la question.
Oui, une sorte de grosse banque de données, une sorte d'intelligence collective en marche, quoi.
Exactement.
Sur la thématique de la bio-inspiration.
Oui, c'est ça. Le muséum, il travaille en ce moment. Il y a Annabelle Aïch qui fait un travail remarquable depuis déjà un ou deux ans. Ça passe tellement vite que je ne sais plus exactement, mais qui fait un travail colossal pour justement essayer de répertorier toutes les personnes qui sont intéressées par la bio-inspiration pour essayer de créer un réseau.
Et on se dit qu'on aurait vraiment tous à y gagner. Enfin, non seulement ça urge, mais c'est aussi quand même, et c'est peut-être pour ça que c'est si difficile, un vrai changement de paradigme. On a parlé d'humilité. Faut de l'humilité, faut s'inspirer, faut écouter, faut prendre le temps. C'est ce qu'il nous faut absolument, et c'est ce qu'on n'arrive tellement pas à faire aujourd'hui.
Ah, c'est sûr. Puis c'est vrai qu'on est très, l'espèce humaine est très avec cette idée de qu'on est en haut d'une pyramide hiérarchique, une espèce de suprématie humaine que je trouve assez insupportable. Donc effectivement, c'est à nous d'aller chercher les leçons que la nature a à nous donner. Hein. Léonard de Vinci disait déjà ça bien avant moi. Mais il faut vraiment, c'est à nous d'aller puiser des solutions que nous, on n'a même pas imaginé, tellement on est mauvais. J'exagère, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Même si on est des génies pour plein de choses, mais il y a un moment donné, il faut comprendre qu'il y a une infinité de solutions à aller chercher dans la nature. On n'en a même pas idée. Même pas idée.
Il faudrait peut-être commencer. Merci en tout cas, Emmanuel Pouy-Débat, d'être venu en direct partager toutes ces pistes. Hein. Merci pour l'émerveillement, pour la beauté aussi, parce que c'est ça qui transparaît à travers ces pages. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Quand les animaux et les végétaux nous inspirent », à lire pour se faire du bien, pour avoir enfin de la suite dans les idées. Et je vous rappelle, chers amis auditeurs, que nous avons un exemplaire et un seul à vous offrir. Vous qui vivez loin d'ici, il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. À bon entendeur. Merci Emmanuel, vous revenez quand vous voulez nous parler des trompes d'éléphant, des pattes d'écrevisse et partager ces intelligences animales et végétales pour nous inspirer.
Merci à vous.
Contactez autour de la question @rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver lundi, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses autour d'un très grand esprit libre et ouvert, le physicien et philosophe Carlo Rovelli, inventeur avec l'ismelé de la théorie de la gravitation quantique à boucle. Formidable empêcheur de penser en rond également, vous êtes prévenus. D'ici là, jeudi et vendredi, vous retrouverez C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras et François Porcheron sur les questions environnementales. Merci pour votre curiosité, pour votre fidélité, surtout restez curieux justement et ouverts à tous les possibles. À l'écoute de RFI, prochain journal dans une minute. En 2010.